الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Les savants sont d'accord pour dire que le minimum pour faire une salat jama'a c'est un imam et quelqu'un avec lui. En ce sens-là, il y a beaucoup d'ahadith, comme le hadith de Malik ibn al-Huwayrith, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il a dit, si vous sortez en voyage, deux personnes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté dans le Bukhari et Muslim. Il leur a dit, si vous êtes en voyage, que quand l'heure de la prière arrive, faites l'appel à la prière, puis faites le deuxième appel, et que le plus âgé d'entre vous préside la prière. Donc ils étaient que deux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de faire la prière en groupe. De même le hadith d'Ibn Abbas qui dormait chez sa tante et sa tante Maymouna, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la nuit, il est venu se mettre à sa gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris pendant la prière, il l'a poussé, il l'a mis à sa droite. Donc ils étaient deux, ils ont fait la salat en jama'a. De même, le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, et Darami et Ahmed, c'est un hadith sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une personne entrer à la mosquée alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prié. Il a dit, man yatasaddaq ala hadha, faqama rajulun fasalla ma'ahu. Il a dit, qui lui fait une sadaqa à cette personne? Un des sahaba, il s'est levé, il a prié avec lui. Donc, il a considéré, sallallahu alayhi wa sallam, que deux, c'était suffisant pour faire une jama'a, car il a demandé juste à une personne de se lever pour faire une sadaqa à celui qui est arrivé en retard. Donc, toutes ces preuves, toutes ces hadiths prouvent que c'est permis de faire la jama'a à deux. Maintenant, la divergence entre les savants, c'est qui sont ces deux personnes? Est-ce que si ces deux personnes-là sont un homme et une femme, c'est une jama'a? Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de divergence. Le deuxième point sur lequel il y a une divergence, si ces deux personnes, il y a un homme et Sabi Mubayyiz, un enfant qui n'est pas encore pubère. Par exemple, un enfant de 7 ans, 8 ans, 10 ans. Est-ce que la prière avec un enfant de 8 ans ou 10 ans qui n'est pas encore pubère, elle est considérée comme une salat jama'a ou non? L'imam Malik, il voit que non. Au sahih, أن الصلاة مع الصبي المميز صلاة جماعة. Est-ce qui est juste, c'est que c'est une salat jama'a, car Ibn Abbas, quand il était petit, il a dormi chez Maymouna et il a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a fait la jama'a. Et comme on va voir plus tard, la prière d'un enfant qui n'est pas encore pubère, mais qui comprend ce qu'il dit, c'est ça, الصبي المميز, qui comprend ce qu'il dit, qui peut comprendre des choses, sa prière elle est valide. Et il est même capable, il peut même être imam pour des gens pubères, comme on va le voir, inshallah, dans les cours à venir, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. Tayyib, mas'alatun ukhra, une autre question. La prière en jama'a, où est-ce qu'on la fait? Est-ce qu'on peut la prier n'importe où, ou est-ce que c'est obligatoirement à la mosquée? La prière en jama'a, elle se fait partout. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la terre est pure pour moi et c'est une mosquée. N'importe quelle personne de ma communauté où la prière lui arrive à n'importe quel endroit qu'il prie. Bien sûr, sauf dans les endroits où c'est interdit de prier, on a vu ça dans les durus précédents, comme dans les cimetières, comme par exemple dans les toilettes, comme dans le hammamat, comme dans les salles de bain, les salles d'eau, comme aussi c'est interdit de prier dans les enclos de chameaux. Voilà, il y a certains endroits précis où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de prier. À part cela, on peut prier là où l'on veut. Comme aussi le hadith des deux personnes qu'on a vu tout à l'heure en voyage. Il a dit quand l'heure de la prière arrive, faites l'adhan et faites salat. Il n'aura pas dit arrêtez-vous dans une mosquée. C'est une rahma. Les communautés auparavant, elles ne pouvaient pas prier. Ça, c'est spécifique à la ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam de pouvoir prier partout. Donc, si par exemple, on était dans un quartier, il n'y a pas de mosquée. Si quelqu'un fait l'adhan, n'importe où dans la ville, pour appeler les gens à la prière, les gens qui entendent l'adhan, parmi les hommes, ils sont obligés de répondre, ils viennent et ils font la prière en groupe. Où que ce soit, dehors, dans une maison, peu importe l'endroit. Walakin, il n'y a pas de doute que le prier dans la mosquée, c'est mieux. Surtout si la mosquée, elle appelle à la prière, dans ce cas-là, si on entend l'appel, il a sami un al-nida, quand on entend l'appel, on est obligé de répondre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à cet aveugle qui est venu lui demander la permission de ne pas venir à la mosquée. Il a dit, atasma'un nida, est-ce que tu entends l'appel? Il a dit oui. Il a dit, fa'ajib. Il a dit, réponds. Donc, tant qu'on entend l'appel à la prière, on est obligé de répondre à cet appel-là. Bien sûr, comme les savants disent, aujourd'hui, maintenant, il y a les haut-parleurs. Bon, en France, on n'est pas concerné par ça. Mais dans les pays musulmans, par exemple, il y a les haut-parleurs. Est-ce que ça veut dire partout où on entend l'appel à la prière, ça devient obligatoire pour nous d'aller faire la... si on est loin de la mosquée avec le haut-parleur? Non. Ce qui est obligatoire, c'est si l'appeleur, le mu'addin, faisait l'adhan sans haut-parleur par-dessus, par exemple, la mosquée ou au-dessus de la mosquée ou au-dessus du minaret. Si tu pouvais l'entendre sans haut-parleur, dans ce cas-là, cette distance où sa voix atteint sans haut-parleur, c'est la distance où il t'est obligatoire d'aller faire la prière à la mosquée. Donc si tu es trop loin, ce n'est pas obligatoire, ou alors voit afdal, c'est mieux. Et même si tu es loin, même si la mosquée où tu es est loin, et dans votre quartier, dans votre village, dans votre maison, vous êtes trois hommes musulmans, vous êtes obligés de faire le jama'a entre vous au moins. Si vous ne pouvez pas aller à la mosquée. Au moins vous faites la jama'a. Ana ta'ajjab ikhwat al-iman. Je m'étonne, dans des familles, tout le monde prie, personne prie à la mosquée, personne prie en jama'a. Tout le monde tout seul, top, il fait sa prière, l'autre il fait sa prière, tout ça. Comment ça, dans une maison, il n'y a pas salat al-jama'a? Les gens, ils prient, chacun ils prie tout seul comme un coq, après ils partent. Rapidement. Si tu es loin de la mosquée ou si tu sais que tu as raté la prière à la mosquée, fais la jama'a chez toi. Fais l'adhan, que tout le monde se mette en rang. Faites l'iqama, faites la salat en jama'a. Même ta femme, si elle fait salat avec toi, elle gagne 27 degrés. Une femme qui fait salat en jama'a, fait le bait, elle gagne plus de hasanat que si elle l'a fait seule. Bien sûr, la prière chez elle, c'est mieux que la prière à la mosquée. Mais la prière chez elle en jama'a, c'est mieux que la prière seule, même pour une femme. Donc, ikhwat al-iman, hadi salat al-jama'a muhimma jiddan. Ça arrive des fois, tu es fatigué, tu arrives en retard, tu n'as pas eu la prière au groupe. Alhamdulillah, fais la jama'a chez toi. Réunis tes enfants, réunis ta famille, ta femme, les gens qui sont venus te visiter, qui que ce soit. Tu fais l'adhan, vous vous mettez en rang et vous faites salat en jama'a. Non. Mais comme on a dit, il n'y a pas de doute que venir à la mosquée pour faire la jama'a, il y a beaucoup plus de récompenses. Et si on entend l'adhan de la mosquée, on est obligé de répondre. On ne peut pas faire une jama'a. Par exemple, on entend l'adhan de la mosquée, nous on fait une jama'a chez nous. C'est la même chose. Si tu entends l'adhan de la mosquée, tu dois répondre à l'adhan. C'est seulement si tu as raté l'adhan de la mosquée, tu fais une jama'a chez toi. Non, c'est pas par exemple quelqu'un, imaginons on serait dans un pays musulman, par exemple toutes les maisons autour là ici, on entend l'adhan, on répond pas, on fait la jama'a chez nous. Non, tu dois répondre à l'appel, tu dois répondre à l'appel de la mosquée. Pourquoi la mosquée a été construite? Pour que chacun fasse la jama'a chez lui. Non. Donc là, chaque, on dira pas que cette prière elle est invalide. Ou bien que ces personnes, ils ont eu un péché, Allahu a'lam, mais normalement, ils sont obligés de répondre à l'appel de la prière. Si l'appel est donné, ils doivent répondre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, amarana, an nabni al-masajid fi d-dur, wa an tutahhar wa tutayyab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de construire des mosquées dans chaque quartier, et de les purifier, de les nettoyer, et de les parfumer. Construire des mosquées, les nettoyer et les parfumer, c'est une obligation. Et ça aussi, barakallahu fikou. Ça, barakallahu fikou. Beaucoup de gens, ils ne donnent pas d'importance aussi à ça. Garder une mosquée propre, se sentir responsable, nettoyer. Tout le monde passe ici comme des touristes, partout, dans toutes les mosquées. Il vient comme un touriste. Il vient, il rentre comme un touriste, il sort comme un touriste. Il croit qu'ici, il y a des femmes de ménage qui tournent derrière lui pour nettoyer toutes les saletés qu'il laisse. Là, c'est l'ajr. suit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a dit de nettoyer les mosquées, de les parfumer. Toi, le contraire, tu les salis. Si tu l'as sali, nettoie. Même si quelqu'un d'autre, à part toi, l'a sali, tu passes derrière lui, nettoie, tu gagnes la récompense, ça fait bien. Est-ce que vous connaissez pas le hadith de la femme qui nettoyait la mosquée et qu'elle est, elle est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ses nouvelles. Les sahaba radhiyallahu anhum, ils ont dit, elle est décédée, on l'a enlevée, on l'a enterrée, on a prié sur elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pourquoi vous ne m'avez pas informé? Eux, ils croyaient que c'était juste une femme de ménage, c'est pas grave, on n'informe pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une femme de ménage qui est morte. On va la laver, on va faire ça pour sur elle, salam alaykoum. C'est pas quelqu'un d'important. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, il voyait que cette femme, elle était importante. Il a demandé après elle, et quand il a vu que ils l'ont enterrée, ils ont prié sur elle, lui il n'a pas prié sur elle, il a prié sur elle, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait salat sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle nettoyait la mosquée. Donc tout ça, la mosquée a été, on la construit, on ramasse de l'argent, on nettoie, on se fatigue, pour qu'après chacun ait pris chez lui. Là, la mosquée c'est fait pour justement réunir les musulmans, apprendre sa religion, faire les prières en groupe avant tout, et tout le reste. Wa khasatan barakallahu fikum, dans ce pays-là, la mosquée elle a un rôle très très important. Sans la mosquée, on ne peut pas s'unir. Sans la mosquée, on ne peut pas apprendre notre religion. Sans la mosquée, on ne peut pas faire nos obligations. Sans la mosquée, on ne peut pas préserver notre foi. Sans la mosquée, on ne peut pas préserver et éduquer nos enfants. Donc la mosquée dans ce pays-là, elle a un rôle essentiel pour les musulmans. Essentiel. Ça doit faire partie de sa vie. Ça doit être son deuxième chez lui. Si ce n'est son premier chez lui, avant chez lui. Non. Donc, salat al-jama'a dans le film Masajid, et de la prière en groupe dans les mosquées, bien sûr, il y a beaucoup plus de récompenses quand on connaît les hadiths. Celui qui fait le wudu chez lui et qui marche vers la mosquée, chaque pas qu'il fait, il l'élève d'un degré, il lui enlève des péchés, il lui rajoute des hasanat. À chaque fois qu'il fait la dua pour venir, etc., etc. Et sa salat, elle sera comptée comme nafila, comme prière surrogatoire, comme elle est venue dans le hadith sahih. Tayyib. Maintenant qu'on a vu le statut de la prière en groupe, qu'on a vu le nombre de personnes qu'il faut pour faire la prière en groupe, qu'on a vu dans quel endroit on peut faire la prière en groupe, on va voir maintenant, barakallahu fikoum, quelles sont les excuses pour lesquelles il nous est permis de ne pas venir à la prière en groupe. Ça ne veut pas dire que quand ces excuses sont présentes, tu ne dois pas venir. Ça veut dire que si tu ne viens pas, tu es excusé. Mais si tu viens, c'est mieux. Vous avez compris? Ça, ce sont les excuses. Si la personne a une de ces excuses-là, il est pardonné. C'est-à-dire, Allah ne lui comptera pas un péché. Mais, s'il vient, il gagne plus de récompenses et c'est mieux pour lui, comme on va le voir. هُنَاكَ أَعْذَارٌ عَامَّةٌ وَأَعْذَارٌ خَاصَّةٌ. Il y a des excuses générales et il y a des excuses spécifiques. Les excuses générales, la pluie forte, la neige, le grand froid. Si par exemple il pleut fort au point où, du fait que si on sort de chez nous pour venir à la mosquée, c'est une machaka, c'est difficile, c'est compliqué. Il nous est permis de prier chez nous. Mais bien sûr c'est mieux de venir à la mosquée. La preuve qui nous est venue, permis de venir chez nous, c'est son affaire que Abdullah ibn Omar, il a fait l'adhan pour la prière dans une nuit où il y avait du vent, et il a dit, priez chez vous. Après cela, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait au muadhin dans les nuits où il pleuvait, où il faisait très froid, de dire à la fin du Adhan, priez chez vous si vous voulez, ou bien il n'y a pas de mal pour celui qui prie chez lui. Donc, ce hadith, rapporté par Muslim et Abu Daoud et Tirmidhi, montre clairement, ou bien rapporté plutôt par Al-Bukhari et Muslim, et dans un autre hadith de Abu Daoud et Muslim et Tirmidhi, où il a dit celui qui veut parmi vous prie chez vous, prie chez lui, peut prier chez lui. Donc ça prouve que dans ça c'est une excuse valable pour ne pas venir prier à la mosquée. La preuve qu'il est mieux quand même de venir, c'est la fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu prier à la mosquée, il s'est prosterné fi tinin wa ma, il s'est prosterné dans la boue et dans l'eau. Une autre fois, il s'est prosterné, ils étaient tous sales, tous pleins de boue. Il s'est retourné, il a trouvé un des sahabis, il n'avait pas de boue sur lui. Pas de terre. Il lui a demandé, tu n'as pas prié avec nous? Il a dit, si, si. Il avait jeté des pierres, en fait c'était de la terre, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait jeté des gravillons par terre. Pour pas qu'il soit plein de boue. Hein? Il avait jeté plein de pierres devant lui comme ça par terre. Et donc c'est pour ça qu'il n'était pas sale. Donc ça prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la pluie, il tenait à la prière au groupe et il y venait. Et on a parlé précédemment que quand il pleut, ou bien quand il fait très froid, ou quand il neige, c'est permis même, si on était, subhanallah, dans un pays musulman où les gens, ou bien on était dans un quartier où on sait que les gens ils viennent presque tous à la prière en groupe, al maghrib ou frère, al maghrib et l'Isha en jama'a, on rentrerait chez nous. Quand il neige fort, quand il pleut fort. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Mais ici, l'objectif de faire ça, c'est de quoi? De garder la jama'a, le maximum de personnes. Ici, tu vas faire ça, tu vas perdre les trois quarts des gens. Donc tu peux pas le faire. T'as pas fait l'objectif. T'as pas atteint l'objectif pour lequel tu réunis entre les deux prières. Que tout le monde puisse profiter de la prière en groupe et rentrer. Ici, si al-Maghrib tu fais ça, tu as un rang, deux rangs. À l'Aïcha, tu as 4-5 rangs. Donc il vaut mieux faire. Dans ce cas-là, même quand il neige ou quand il pleut, il vaut mieux attendre la jama'a, parce que les gens n'ont pas l'habitude de fréquenter la mosquée tout le temps. Non. Ou bien des fois, ils ne sont pas arrivés encore du travail, par exemple en hiver. La première cause, c'est le froid, la pluie ou la neige ou ce genre de choses, ou le vent violent. Ça, c'est une cause qui nous permet de prier chez nous. Non. Mais il n'y a pas de doute que celui qui prie chez lui, il aura moins de récompense que celui qui prie en jama'a. Il n'aura pas la récompense de la prière en jama'a. Allahumma, sauf s'il me fait une jama'a chez lui. S'il fait une autre jama'a chez lui, il aura la récompense de la jama'a. Mais bien sûr, la jama'a de la mosquée en groupe, c'est pas la même récompense que la jama'a chez toi. Que tu as fait si tu avais une excuse par exemple. Là, tu as la récompense d'avoir marché vers la mosquée, d'avoir fait la dua de la mosquée. Tu fais ta hiyat du masjid, le groupe de la mosquée il est plus grand, etc., etc. Sans considérer que si tu viens à la mosquée, alhamdoulilah, toi tu pries derrière l'imam. S'il fait des fautes, c'est pour contre lui et c'est pour toi. Alors que si c'est toi qui pries chez toi, si tu fais des erreurs, c'est toi qui rends des comptes. Non. Min al-a'dhar al-khassa, parmi les excuses spécifiques, on a la maladie. Et comme l'a rapporté Ibn al-Mundhir, qu'on ne connaît pas un parmi les savants qui n'a pas dit que c'était une excuse valable de ne pas venir à la mosquée quand on est malade. Mais quelle maladie, barakallahu fikoum? La maladie qui nous empêche de pouvoir venir jusqu'à la mosquée ou de tenir bien debout, ou la maladie qui nous fatigue beaucoup. Pas par exemple un petit mal de tête, mashallah, un mal de dents, à peine un degré de fièvre en plus. Ça, c'est pas une maladie qui t'empêche de venir à la prière en groupe. La maladie qui t'empêche de venir à la prière en groupe, c'est quand c'est difficile pour toi de pouvoir te lever, te déplacer, de venir, de tenir dans le rang. Wa ma'a dhalik, et encore avec ça, comme Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu l'a rapporté, il a dit que à son époque, à l'époque des Sahaba, il n'y a que les hypocrites qui ne venaient pas à la prière en groupe, ceux qui ont leur nifaq, leur hypocrisie étaient reconnus. Et il a dit, même le malade parmi nous, on le portait. Yuhada bayna rajulayn. Il le portait entre deux personnes. Et il l'emmenait dans le rang, il le tenait dans le rang pour prier en jama'a. Vous imaginez comment Sahaba radiallahu anhu, il tenait l'importance à la prière en jama'a. Non. En plus, ces hadiths, ces histoires que Sahaba radiallahu anhu, ils ont vécues, ça nous montre comment ils étaient entre eux aussi. Que c'était une umma, une communauté, des frères. C'est-à-dire, ils se voyaient tellement, ils se fréquentaient tellement que si quelqu'un était malade, ils étaient tout de suite au courant. Ils allaient le voir, les frères, ils allaient l'aider, ils allaient le chercher, ils l'emmenaient. Maintenant, Quelqu'un est malade, personne ne demande après lui, un, deux, trois jours, quatre jours. Ah, t'étais où? Mashallah, peut-être il est malade, peut-être il meurt, regarde, t'es même pas au courant. Ton frère, tu le vois pas, une, deux, trois prières, normalement tu demandes des nouvelles. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Peut-être il est malade, il te dit viens me chercher pour aller à la mosquée. Tu vas aller le chercher en voiture, tu gagnes la récompense. Tu l'emmènes, tu le portes, t'es à son service. Et Akhi, qu'est-ce que tu veux que je t'emmène quelque chose? Tu as besoin de quelque chose? Il est où? On est dans une commune maintenant, on est devenu individualiste, égoïste. Même dans le dîn, même dans les pratiques religieuses, on est devenu comme ça. Chacun pense qu'à lui. Il ne veut pas faire profiter ses frères. S'il connaît quelque chose, il garde pour lui. S'il a trouvé quelque chose d'intéressant dans le dunya ou dans le dîn, il garde pour lui. Est-ce que c'est ça le dîn? Est-ce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Des fois, il y a des gens, ils sont dans leur famille. Il n'est pas capable de lui transmettre ce qu'il entend à la mosquée, dans sa propre famille. Des gens qu'il voit tous les jours. Ses voisins. Les gens avec qui il travaille. Anta mas'oul ya akhi karim. Tu es responsable. Selon ta capacité, sur des gens déjà tes proches, de leur transmettre, de leur faire le rappel, de transmettre ce que tu as appris, ce que tu as entendu de sources sûres. نعم كذلك une personne aussi qui a par exemple un aveugle comme il a été rapporté dans des hadiths sahiha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à un aveugle qui présidait la prière pour son peuple, il a dit à Rasulullah, je préside la prière pour mon peuple, quand je n'ai pas quelqu'un pour me guider, si je n'ai personne pour me guider, j'arrive pas à... Des fois quand il pleut, il y a un ruisseau qui m'empêche de traverser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé de prier chez lui. Donc si la personne, elle n'a personne pour le guider, un aveugle qui n'a personne pour le guider ou pour l'emmener à la mosquée, ce n'est pas obligatoire pour lui, c'est une excuse pour prier chez lui. Mais si par contre il a quelqu'un qui peut l'emmener, il doit y aller. Obligatoirement. Non. Kadhalika al-khawf. Quelqu'un par exemple qui a peur, par exemple en période de trouble, de guerre civile, une maladie très contagieuse, que s'il sort, il a peur pour sa santé ou pour sa personne, ou il a peur pour sa famille. Par exemple, s'il quitte sa maison, il a peur que des voleurs rentrent chez lui. C'est une période de trouble. Des criminels, ils rentrent, ils vont faire quelque chose chez lui ou sa famille. Ça lui permet aussi de rester chez lui, de ne pas sortir faire salat à la mosquée en jama'a, et de rester faire salat en jama'a, par exemple, avec les gens de chez lui. Ou même s'il n'y a personne de la jama'a, il n'y a personne pour faire une jama'a, il a peur pour sa propre personne, il pourra rester chez lui. Non. Et ça, il y a une parole d'Abdullah ibn Abbas qui a été rapportée en cela. Kadhalika, de même, parmi les causes et les choses qui te permettent de ne pas répondre à l'appel de la salat en groupe à la mosquée, hudur ta'am inda man lahu fihi haja. Si la nourriture est posée et tu as faim. Si on te pose le repas et tu as faim, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَقِيمَةِ الصَّلَاةُ فَابْدَوُ بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nourriture est posée devant l'un de vous et que l'iqama a été faite, commencez d'abord par la nourriture et ne vous dépêchez pas jusqu'à ce que vous ayez fini votre besoin. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yuda'u lahu at-ta'am wa tuqamu as-salah fala فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وهذا أخرجه النسائي وأبو داود وهو حديث صحيح. عبد الله بن عمر quand la nourriture était posée, il entendait même l'imam réciter sans microphone. C'est-à-dire, imagine-toi comment il était proche. Mais il mangeait, il n'allait pas. S'il avait faim et la nourriture était posée, il mangeait. Car c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as faim et tu vas faire la prière, dis-moi, à quoi tu vas penser dans ta prière? Ya, mais que l'imam ait récité, inna a'tayna kal-kawthar. Subhanallah, qu'est-ce qu'il a cet imam? Il fait des rukous longs, des sujouds longs. Il croit qu'il n'y a que lui, nous on a faim. Tu ne vas pas être concentré avec les kalimes dans la prière. Walidalik, c'est pour ça qu'il a été permis de ne pas venir à la prière en groupe si la nourriture, elle est posée. Parce que l'objectif de la prière finale, c'est quoi? C'est de se concentrer. Salat dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Ad-du'a, ad-talab. L'invocation, tu demandes. Si toi tu viens, tu fais la prière, ton cœur il n'est pas là. Ton esprit il est ailleurs. Tu auras fait les gestes, Inch'Allah ce sera écrit que tu as fait ta prière. Mais Allahu a'lam, quelle récompense tu auras de cette prière? C'est-à-dire, tu auras fait ton obligation, tu t'es déchargé de l'obligation que tu avais à faire, certes, mais est-ce qu'Allah a accepté cette prière? Est-ce que tu seras récompensé pour cette prière? Ça, c'est une autre histoire. Et Allah Ta'ala le dit, « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » Certes, les croyants ont réussi, ceux qui sont concentrés, et qui sont pleins d'humilité dans leur prière. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et prenez appui dans la patience et dans la prière, et certes c'est quelque chose de lourd, c'est-à-dire la prière elle est grande, illa 'ala al-khashi'in, sauf pour les gens concentrés. Quelqu'un concentré, la prière pour lui c'est pas lourd, c'est un plaisir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Il disait qu'il a la fraîcheur de ses yeux et le plaisir dans cette vie-là, il l'a trouvé dans quoi? As-salat, dans la prière. De même qu'il disait à Bilal, arihna biha ya Bilal. Nahnu la naqulu arihna biha, nahnu naqulu arihna minha. Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit arihna biha. Soulage-nous, apaise-nous avec l'appel à la prière, c'est-à-dire ça y est. La prière, elle arrive. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait l'appel à la prière, comme Aïcha radhiyallahu anha, elle raconte, il dit, c'est comme s'il ne nous connaissait pas. Ça y est, il ne connaît plus personne. Il pose tout, il part. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il était au service de sa famille, il joue avec eux, il parle avec eux. S'il entend l'adhan, il ne connaît plus personne. Il pose tout, il sort à la prière. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà pourquoi celui que la nourriture lui posait devant et qu'il a faim, pourquoi il commence par la nourriture? Donc c'est recommandé pour lui de manger s'il a faim. Bien sûr, il ne fait pas exprès que la nourriture soit prête pour l'heure de salat. Voilà, il est arrivé, il n'a pas eu le temps, il a faim, il a posé, il a mangé. C'est l'heure de salat, allez, il mange. Il fera la prière après, Inch'Allah. De même, une des choses qui permettent, que c'est une excuse pour ne pas faire la prière en groupe, Mudafa'atul akhbathayn, quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes. Par exemple, quelqu'un qui est serré. Il peut faire la prière, mais il va la faire mal à l'aise. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La salata bi hadrati al-ta'am, wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière complète quand la nourriture est posée, ni même quand il se retient d'aller aux toilettes. Donc, quelqu'un qui se retient et fait la prière comme ça, juste pour, tiens, j'ai le dos, j'ai pas envie de refaire le dos. Ah, là, je vais faire la prière vite fait. Ah, après ça, là, je vais aller aux toilettes. Il y en a, ils pensent comme ça. Subhanallah. Il se débarrasse de la prière. Il ne veut pas aller aux toilettes pour refaire les ablutions, pour faire salat tranquillement. Non, il préfère se retenir et faire salat mal à l'aise et la finir rapidement pour pouvoir après, mashallah, perdre son temps et prendre son temps pour faire tout le reste. Là, si tu n'es pas à l'aise pour faire salat, tu as besoin de refaire les ablutions, tu vas refaire les ablutions et tu viens rejoindre la jama'a, inshallah. De même, une des permissions, inshallah, pour ne pas faire la prière en jama'a, c'est la personne qui a mangé quelque chose qui a une odeur forte. Comme par exemple, l'ail, le thoum, ou bien le basan. Non, même le camembert. Allah yubarak, même le camembert. Le mieux, c'est makruh, c'est détestable de manger cela dans la journée ou un peu avant la prière. Parce que tu vas rater la prière en jama'a. Tu vas nuire à tes frères. C'est pour ça que tu viens pas. Tu ne viens pas parce que tu nuis aux autres. C'est-à-dire, il est dans la prière, il sent ta mauvaise odeur. Comment il va se concentrer, Akhil Karim? De même, les gens, Allah yisallam koum, les gens qui ne lavent pas leurs chaussettes ou là, qui sentent mauvais, il vient à côté de toi, tu es dans la prière, tu dis, Ya Rabbi, qu'on finisse rapidement. Akhil Karim, il a sué, il a couru partout, il vient, mashallah, Allah wa akbar. Et toi, tu es à côté de lui. Là, tu viens à la mosquée, sois propre, parfume-toi. Fais en sorte de ne pas gêner tes frères, barakallahu fik. Ne gêne pas tes frères. Pour toi-même déjà, c'est important d'être propre. Mais des fois, quelqu'un se dit, bon, tout à l'heure, après. Mais au moins, si c'est pas pour toi, au moins pour les autres, Akhil Karim. Au moins pour les autres. Et donc, ça, c'est pour celui qui mange quelque chose de halal, comme du camembert ou bien... Mashallah, des oignons, c'est halal. Imagine-toi alors quelqu'un qui fait quelque chose de haram, il fume la cigarette. Déjà, il fait quelque chose de haram. Et en plus, il vient t'empoisonner avec l'odeur de sa cigarette à côté de toi pendant la prière. Donc, cette personne-là qui sent la cigarette aussi, ne vient pas déranger les gens. Il se lave bien, il se savonne bien. Déjà, il y a tout bilallah, astaghfirullah, il arrête la cigarette. Voilà, il n'a pas encore arrêté, il fait la prière, on ne va pas dire ne fais pas la prière. On va dire fais salat, parce que délaisser la prière c'est pire que de fumer la cigarette. Donc, au moins qu'il enlève l'odeur et qu'il demande à Allah, qu'il demande à Allah qu'il le débarrasse de ce poison. Car c'est un poison la cigarette. C'est un poison pour la santé en premier lieu. C'est un poison pour ta foi et pour ton iman, c'est un poison pour aussi, et aussi ça détruit ton argent aussi. Il n'y a aucune faïda, aucun bienfait dedans. Non. Wa huwa haram. Et c'est haram, et ceux qui disent que c'est makruh, et en fait ils ne connaissent rien à la cigarette. Ils croient que la cigarette c'est une sucette. Non, quelqu'un qui dit que c'est pas haram, il connaît pas qu'est-ce que c'est une cigarette. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est pour ça que beaucoup, dans les premiers, quand la cigarette avait apparu dans c'est-à-dire dans les pays arabes, dans les débuts 20e siècle, il y avait des ulama, ils ne savaient pas adorar la cigarette, ils ne voyaient pas la gravité de la cigarette, ils pensaient juste ça a une mauvaise odeur. Alors il y en a, ils disaient c'était juste macro. Et aujourd'hui, les égarés, ils restent sur cette fatwa d'avant. Ah, maintenant, il y en a qui disent que c'est makruh. Ça y est, maintenant, c'est passé. Tout le monde dit que c'est haram. Ça y est, c'est clair. Maintenant, on sait qu'est-ce que c'est la cigarette. On sait comment ça nuit. Même les koufars, ils écrivent, la cigarette tue. Fumer tue. Ils te mettent des photos de cancer, des photos de... Allah, la qadar Allah. Subhanallah. Quand tu... Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a affaire. Quand tu vois ces photos-là, déjà, ça suffit. Non. Voilà qui, eux, ils ont une aqliya bizarre, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est mauvais, mais ils te le vendent. Alors que fi shari'at islamiyya, dans un pays musulman, dans la loi islamique, tu n'as pas le droit de laisser sur le marché quelque chose de mauvais pour le gens. Tu dois l'empêcher, tu dois l'interdire. C'est le devoir du gouverneur musulman de l'interdire. C'est son devoir. Non. Pour finir, il y a des gens qui croient que quand il se marie, pendant les jours, mashallah, les premiers jours de mariage, il y a juste là où Allah il sonne les jama'a. Il lui est permis de parvenir à la mosquée. Là, il n'y a pas de dalil sur ça. La seule chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu donnes trois nuits à la femme vierge, sept nuits à la femme qui n'est pas vierge. Sept nuits à la femme vierge, trois nuits à celle qui n'était pas vierge, qui a déjà été mariée. C'est tout. Mais à part ça, tu dois venir faire ça dans ton jama'a. C'est pas ça y est, non, mais les frères, laissez-le, ils viennent se marier. Non, il vient pas à la mosquée, c'est normal, ils viennent se marier. Non, y'a khil karim. Salatul jama'a. Hein? Salatul jama'a, c'est une nécessité, c'est une obligation pour les hommes de la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.